C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Pascal Bérubé est député de Matapédia, sous la bannière du Parti québécois depuis 2007. Une de ses inspirations en politique, c'est René Lévesque, dont on célèbre aujourd'hui le 100e anniversaire de la naissance. Monsieur Bérubé, bonjour.
Bonjour.
J'ai vu passer un message de vous sur les médias sociaux où vous disiez que René Lévesque, c'était votre inspiration en politique. Pourquoi?
La plus grande inspiration pour un jeune à l'époque au cégep qui s'intéressait déjà à la politique. J'ai regardé plusieurs documentaires, j'ai lu plusieurs livres, j'en ai parlé beaucoup avec mon père. C'est un personnage emblématique dans ma famille. Mon père a toujours été un indépendantiste engagé au Parti québécois, quoique plutôt humblement, pas dans les structures, mais comme membre. Alors, c'est une personnalité fascinante. J'ai 47 ans. Lorsqu'il est décédé, je m'en souviens, j'étais en première secondaire, et je me souviens de l'onde de choc dans ma communauté, même dans mon école, les enseignants en parlaient beaucoup. Puis évidemment, à partir du moment où je me suis engagé en politique, puis au Parti québécois, ben c'est le père fondateur, mais c'est pas un politicien comme les autres. C'est le genre d'élu qu'on peut placer une affiche de lui dans sa chambre et ça passe. C'est assez emblématique, et souvent on cherche des héros ailleurs. On en a un au Québec qui s'appelle René Lévesque et qui a rien envie aux grandes figures politiques du monde.
Pourquoi vous dites que c'est un héros?
À plusieurs égards. Moi, je pense que la vie de René Lévesque, elle est séquencée de différentes façons. D'abord, le journaliste qui se rend au front pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est un des premiers journalistes au monde à entrer dans un camp de concentration, ça l'a marqué à vie. Ensuite, un vulgarisateur qui explique la politique internationale au Québec de façon magistrale, avec un tableau et une craie, une éloquence, un charisme de quelqu'un qui a l'air un peu brouillon, mais qui a les idées claires. Ensuite, arrive la politique, mais d'abord avec le Parti libéral du Québec, la nationalisation de l'hydroélectricité, la lutte à la corruption, déjà, ça l'a marqué, là, les mœurs politiques étaient encore un peu ce qu'elles étaient sous Duplessis. Il a été témoin de différentes choses comme député libéral. Et le courage. Le courage de quitter une formation politique, d'en créer une autre à partir de rien. De 70 à 76, il faut pas oublier ça, René Lévesque a à peu près aucun revenu. Il est chroniqueur au Journal de Montréal. Il est chef d'un parti qui est pas toujours facile à gérer, un parti d'idéalistes, et devient premier ministre contre toute attente, et un bon premier ministre. Un premier ministre qui marque tellement les esprits que lorsqu'on demande aux Québécois qui est le premier ministre de tous les temps ou la personnalité politique préférée des Québécois, les gens invariablement vont dire René Lévesque.
Est-ce que vous êtes tanné des fois d'entendre des gens qui disent René Lévesque aurait pensé telle affaire, René Lévesque aurait dit telle chose? On est là 30 ans après sa mort. Des fois, j'ai l'impression qu'on joue au Ouija politique.
La réponse, c'est oui. C'est une pratique qui doit cesser. Je vois ça régulièrement, de différentes façons. Alors, soit René Lévesque reconnaîtrait pas son parti, soit René Lévesque se retournerait dans sa tombe, soit René Lévesque ne serait pas d'accord. Évitons de faire parler les morts, pas seulement lui, mais les autres aussi. C'est pas la même époque. Et à moins de l'avoir côtoyé de près, d'être un membre de sa famille ou quelqu'un qui était son contemporain, qui a travaillé avec lui, puis moi j'en connais plusieurs, faut jamais faire ça. L'autre chose, c'est la récupération. Je vois parfois d'autres formations politiques dire, ben écoutez, René Lévesque serait assez d'accord avec ce qu'on fait, il aurait fait les choses comme nous. C'est pas mieux non plus. Je pense que le 100e anniversaire de René Lévesque, qui est fêté aujourd'hui, mais pendant toute la prochaine année, c'est l'occasion d'étudier son œuvre, ses écrits, sa vie, sa carrière, des zones d'ombre aussi. René Lévesque a eu des moments d'hésitation en politique, il a eu des difficultés. Faut pas déifier les personnages, mais il faut s'en inspirer avec le contexte de l'époque. Alors oui, les gens qui disent, qui essaient d'interpréter la pensée de René Lévesque en 2022, c'est une pratique qui doit cesser et qui, moi, me chicote depuis longtemps.
OK, parlons de la campagne électorale qui va être déclenchée dimanche. Est-ce que vous avez fait plusieurs campagnes électorales, M. Bérubé, là, depuis votre élection? Vous êtes rendu un vétéran.
C'est ma 7e campagne électorale. J'ai perdu la première par 33 voix en 2003 avec Bernard Landry. Et depuis, d'ailleurs, je cherche encore ces 33 voix. Et depuis ce temps-là, je sais la valeur de chaque visite, chaque vote. Mes majorités ont augmenté depuis ce temps-là. Mais déjà, ma 7e campagne à l'âge de 47 ans. J'ai commencé jeune. Et oui, je suis le vétéran de mon équipe. Alors, mes collègues candidats et candidates ont bien les questions.
OK. Est-ce que cette campagne-là est spéciale?
Oui. Ben, l'offre est variée. Il y a 5 formations politiques sur les blocs de départ. Quand je me suis présenté la première fois en 2003, on était au pouvoir. Il y avait les libéraux, il y avait la DQ est en tête, les libéraux, le PQ a remonté, puis les libéraux nous ont coiffés. On était à 3, là on est à 5. Les réseaux sociaux, quand j'ai commencé en politique, là, c'était même pas envisageable. Là. Facebook, Twitter, Instagram, ça change considérablement la vie politique. Certains l'utilisent très bien, mais ça peut devenir aussi une source de distraction, même un danger pour les gens qui l'utilisent. Parfois, ça se retourne contre eux. Et c'est une campagne où, c'est la première fois que je vois ça, parce que le gouvernement ne le dit pas, mais certains le disent, c'est comme si tout était joué d'avance. Moi, je pense que rien n'est joué dans cette campagne, et c'est pour ça qu'on a des campagnes électorales, et que les enjeux sont importants. Il faut tenir compte des programmes, des candidats, des candidates, de ce qu'on a dans la tête, ce qu'on a dans le cœur. C'est important. Alors, si on se concentrait pour le Parti québécois là-dessus, puis qu'on conservait les analyses électorales pour après l'élection, je pense qu'on aurait une campagne pas mal plus intéressante.
Écoutez, vous êtes un gars qui peut être diplomate, là, mais dans votre tête, quand on vous parle de des difficultés de votre parti, parfois de la mort de votre parti, avant même que l'élection soit jouée, c'est quoi, de façon non censurée, ce qui passe dans votre tête?
Ben, c'est injuste. Ben, j'attendais à autre chose, mais c'est injuste. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, ouais, mais là, les conservateurs pourraient être l'opposition officielle. À ma connaissance, ils sont crédités d'aucun gain présentement, si on regarde les projections. Et puis, Québec solidaire va faire moins que la dernière élection, mais on dirait qu'on est sur le bord de la révolution, là, avec eux. Je veux dire, il faut regarder les choses dans leur perspective. Donc, il y a tout le temps un poids supplémentaire qu'on accole au Parti québécois. Je trouve que ça plombe inutilement les entrevues, souvent, parce qu'on prend les premières minutes pour parler de ça. Parlons des programmes, parlons de la campagne, puis on aura amplement de temps après l'élection, pour supputer sur ce qui s'est passé, pour faire les analyses. Moi, c'est ma suggestion pour rendre l'élection plus intéressante.
Là, vous l'avez dit, il y a 5 partis, il y a une offre politique qui est diversifiée. Les solidaires, les libéraux, les péquistes, les caquistes, le parti conservateur de M. Duhaime, là, qui a fait de ce parti-là quand même une surprise politique. Pensez-vous que ça peut durer qu'au Québec, dans l'offre politique, il y a 5 partis où on va revenir naturellement à un moment donné à 2 partis?
Ça va être difficile compte tenu de notre mode de scrutin où, comme on dit en latin, the winner takes it all. C'est-à-dire qu'on peut gagner par 3 voix dans un comté pour notre siège. Faut pas gagner par 10 000, on a le siège quand même. Donc, le mode de scrutin favorise un parti comme la CAQ. C'est pas pour rien qu'ils sont contre la proportionnelle, même s'ils s'étaient engagés à faire cette réforme-là. Il y a moins de membres qu'avant dans les formations politiques. Les rassemblements sont moins grands aussi. Donc, là, c'est un test. C'est la première fois qu'on va vivre ça à 5 formations politiques qui ont du financement, qui ont des organisations, qui auront 125 candidats dans chacune des circonscriptions. C'est pas comme le Parti de la loi naturelle il y a quelques années qui avait quelques candidats. Ça va changer considérablement. Est-ce que c'est viable? Est-ce qu'il y aura des réalignements avec les formations politiques? Ça, on aura amplement le temps de regarder ça, mais c'est évident que c'est beaucoup. Et ne serait-ce que la couverture de la campagne. J'étais avec une équipe de TVA il y a quelques minutes dans ma circonscription. Ils doivent déléguer 5 journalistes. Et c'est le cas pour d'autres médias aussi, la presse, le soleil, etc., pour couvrir tous les autobus de campagne, c'est complexe. Alors, c'est un défi pour tout le monde, cette campagne-là.
OK. Je veux vous entendre sur un dossier le plus courant qui est pas électoral, mais qui va sûrement teinter la campagne électorale. Vous et moi, on a souvent parlé de police au fil des années. Il y a des fusillades à Montréal, mais pas seulement à Montréal. Il y a une montée de la violence, il y a de plus en plus d'armes. L'ancien critique aux affaires policières que vous êtes voit tout ça de quel œil?
Ben, c'est un enjeu réel, la sécurité. D'abord, la population, un des enjeux les plus importants, c'est de vivre dans la quiétude. Et à Montréal, c'est pas ça. Je sais qu'on se borne à dire que c'est une ville sécuritaire. Moi, je sens pas ça présentement. C'est une ville où tout peut arriver. Alors, pas tellement longtemps, je viens de vérifier, le 15 août dernier, Paul Saint-Pierre Plamondon a proposé un plan en 5 points sur le contrôle des armes dans les cas de criminalité. Là, on parle pas des chasseurs ici. Bon, j'irai pas de façon exhaustive, mais il y a la prévention puis il y a de la répression aussi. Et il faut que les policiers soient habilités à combattre le crime. Et les effectifs, ils doivent venir d'un peu partout. Il y a le SPVM, il y a la SQ, il y a la police de Longueuil, la police de Laval. Moi, je suis assez vieux pour me souvenir de Carcajou, qui était une initiative lancée par le Parti québécois à l'époque, où il disait, ben, écoutez, on va tout mettre en œuvre pour contrer les motards à l'époque. Là, la nouveauté, c'est qu'on parle oui, des motards, oui, de la pègre italienne, mais aussi des gangs de rue. Alors, s'il y a une situation exceptionnelle, je sens pas qu'il y a une mobilisation exceptionnelle pour combattre ça. Ce qui s'est passé hier, écoutez, dans un centre commercial, dans un stationnement sur la rue Saint-Denis, Coin Ontario, où j'habitais là pendant quelques années, ma conjointe de la ville de Montréal, elle me disait, ah ben c'est un peu partout là. Je veux dire, là c'est réel, c'est pas un film. Puis faudrait pas s'habituer à ça non plus. Et il y a des gens qui commencent à dire que un des enjeux pour quitter la ville, c'est la criminalité. On n'entendait pas ça il y a quelques années. On parlait de l'environnement, on parlait d'avoir un grand terrain, du prix des maisons. Ça va devenir un enjeu, mais moi, je suis de ceux qui plaident pour que Montréal demeure une ville forte, une ville rayonnante, une ville accueillante, une ville où on retrouve la quiétude. Tout le monde au Québec devrait se préoccuper de ce qui se passe à Montréal présentement. Et je sais qu'on arrive en campagne électorale, mais moi, j'accepterais que le gouvernement mette tous les efforts possibles à court terme pour déployer une escouade pour que on tue pas des innocents et que les gens n'aient pas peur de marcher dans leur rue.
Quand vous dites que les policiers devaient être habilités à combattre le crime, pourquoi vous sentez le besoin de le dire? Ils le sont, habilités.
Je connais bien les policiers à Montréal, M. Lagacé, puis j'ai régulièrement des échanges là-dessus. Ils doivent sentir que la Ville de Montréal leur donne les ressources nécessaires et se fie à leur jugement. Vous pourriez parler avec M. Francaire de la Fraternité des policiers ou avec n'importe quel policier de Montréal. Ils vont vous dire qu'ils ont identifié plusieurs façons qui leur permettraient d'être plus efficaces, d'avoir une meilleure collaboration. Ils doivent se sentir appuyés. Policier, c'est un métier très noble, parce que moi, j'ai un grand respect pour les policiers. Ils sont préoccupés comme nous, puis ils veulent être capables d'intervenir, faire un bon travail. Donc, les solutions se retrouvent souvent auprès des policiers. Et moi, je préfère qu'on prenne du temps pour échanger avec eux. Je suis convaincu que c'est la grande partie de la solution. Ils connaissent le territoire, ils savent à qui ils ont affaire. Quand on dit connu de leur service, là, les gens qui sont abattus ou les gens qui sont victimes d'attentats, dans bien des cas, ils sont connus des policiers. Alors, il y a de la prévention qui peut être faite aussi.
Merci, M. Bérubé. Bonne campagne.
Merci. Et puis, je salue l'antenne CFIX 93.3 à Rimouski, parce qu'on vous écoute depuis quelques temps sur cette station. Donc, je suis heureux de vous dire qu'on vous écoute au Bas-Saint-Laurent aussi.
Ben, on est très content d'avoir des auditeurs dans votre belle région. Merci.
On va essayer de parler de vous plus souvent.
Salut.
C'est sûr, MC, ça?
Oui.
Salut Gilles.
Salut Gilles. Bon, à la prochaine, M. Bérubé. Parfait. OK. Juste avant de passer à la chronique d'Alexandre Pratt, on a commencé l'entrevue avec Pascal Bérubé en parlant de René Lévesque. Bon, moi, quand j'étais tout petit, ça m'intéressait la politique du côté de ma mère. La famille est extrêmement politisée. Et donc, c'est un personnage que j'ai vu aller. Petit, je me rappelle du référendum de 80, mais je veux juste souligner quelque chose. Okay? Il y a un durcissement du discours en politique. On le voit aux États-Unis, ça commence à déborder ici. Il y a des mots très durs qui se disent publiquement. Moi, ça me surprend souvent de voir ça dans le discours politique. Des fois, il y a des politiciens, des politiciennes, ici et ailleurs, qui envoient des messages codés, tu sais, des discours qu'on peut pas épouser, mais on essaie quand même d'avoir le vote de ces gens-là. Puis je veux juste rappeler une chose à propos de René Lévesque. C'est que René Lévesque, évidemment, vous le savez, c'était un souverainiste. En 1970, il y a eu l'apogée d'une campagne d'explosion, d'enlèvement, une campagne violente menée par les gens du FLQ. Et ça aurait été facile probablement pour un René Lévesque d'envoyer des messages codés, de pas vouloir les condamner parce que il y a des gens qui admiraient ces gens, les militants du FLQ, les terroristes du FLQ, parce que c'était du terrorisme. Ça aurait été facile de ménager la chèvre et le chou pour René Lévesque pour ne pas, disons, s'aliéner une partie du vote. Mais quand Pierre Laporte a été enlevé, a été assassiné, M. Lévesque a eu des mots très, très durs pour ceux qui partageaient son rêve, parce que les gens du FLQ voulaient aussi un Québec indépendant. Il a dit, ceux qui ont exécuté Pierre Laporte, ben après l'avoir vu vivre et espérer pendant tant de jours, ce sont des êtres inhumains qui ont été portés ici dans une société qui ne le justifie absolument pas. Un fanatisme glacial, des méthodes de chantage à l'assassinat qui sont celles d'une jungle sans issue. S'ils ont cru avoir une cause, ils l'ont tué en même temps que Pierre Laporte, en se déshonorant ainsi. Ils nous ont tous plus ou moins éclaboussés. Ça a été des paroles courageuses. Il aurait pu juste faire ça, juste dire, ah, c'est pas bien de faire ça. Non, il a condamné l'extrémisme, la violence en termes très, très clairs. Moi, je trouve que c'est un exemple pour tout le monde qui devrait, dans la sphère politique, là, il y en a, je nommerai pas personne, mais tout le monde devrait prendre son gaz égal.
Patrick Lagacé en accéléré.
Parlons de police, puis en guise d'introduction, au Collège Maisonneuve, un cégep de Montréal, les étudiants ont une association étudiante, comme dans tous les cégeps, comme dans toutes les universités, et l'asso distribue un agenda étudiant, et dans l'agenda, il y a un dossier qui explique l'importance de définancer la police. Définancer la police, c'est cette idée de gauche, même d'extrême gauche, selon laquelle tu prends le budget de la police ou une partie du budget de la police pour l'injecter dans des programmes sociaux, pour investir dans des quartiers où il y a des populations marginalisées. Écoutez, je veux pas taper sur une association étudiante de cégep, là, des jeunes de 18-19 ans, et je vous le demande, là, si une association étudiante ne flirte pas avec les idées de gauche, même des idées d'extrême gauche au cégep, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment une association étudiante de cégep? Bon. Mais cette idée-là, définancer la police, c'est une idée américaine. C'est une idée qui est enracinée dans la réalité d'un pays, faut-il le rappeler, qui est pas le nôtre, de problèmes qui sont pas exactement comme les nôtres, ce qui veut pas dire qu'on n'a pas de problème ici dans notre pays, mais cette idée-là a des adeptes quand même ici. Il y a des militants ici qui pensent que réduire ou même anéantir le budget de la police, ça va magiquement se transformer en amélioration de la vie des populations défavorisées dans le réel. Ça marche pas comme ça. C'est pas des vases communicants, mettons, ou en tout cas, pas immédiatement communicants. Moi, je crois à l'importance de la prévention. Je crois à l'importance des investissements dans les quartiers où il y a des populations qui sont plus pauvres, des populations où il y a moins de services, moins de loisirs, etc. Il y a des quartiers où il y a pas de centre sportif, par exemple, comme Montréal-Nord. Mais je pense que certains quartiers défavorisés, les inscriptions dans des activités sportives, des activités culturelles, ça devrait être gratis. Je sais que ça décoiffe, mais je pense que c'est un investissement pour l'avenir. C'est un exemple, mais c'est le genre de mesure qui peut avoir des effets dans 5, 10, 15, 20 ans. Là où il y a de la pauvreté, oui, il y a de la misère, et bien souvent, il y a plus de violence, il y a plus de crimes, d'insécurité. C'est vérifiable, ça, partout dans le monde. Donc, qu'on investisse, qu'on mette du cash dans ces quartiers-là, qu'on aide financièrement les mères monoparentales, les familles pauvres, on le fait déjà. Faisons-le encore plus. C'est un investissement pour les années à venir. Mais ça ne devrait pas être conditionnel d'investir dans ces quartiers-là, dans ces populations-là. Ça ne devrait pas être conditionnel à définancer la police. Les gens veulent pas ça. Il y a des idées de militants qui sont jugées complètement folles. Moi, je me souviens des militants d'un parti naissant qui s'appelait Projet Montréal il y a 20 ans. Ces militants-là, Richard Bergeron en tête, voulaient, imaginez donc, fermer l'avenue Mont-Royal pour la rendre piétonne. 20 ans plus tard, ça marche. C'est pas fou. Ils avaient raison. Mais il y a des idées de militants qui sont jugées folles parce qu'elles le sont, qui sont pas intelligentes, qui sont juste ça, des idées de militants. Minneapolis, c'est la ville où George Floyd a été tué par la police en 2020. On connaît tous l'histoire. Ça a eu un retentissement immense aux États-Unis. Ça a eu des échos ici aussi. Ben, en 2021, un an et demi après la mort de M. Floyd, il y a eu un référendum à Minneapolis qui allait dans le sens de définancer la police. On voulait une approche plus santé publique pour la sécurité publique, mais 56% des gens de Minneapolis ont dit non. Et dans le quartier où on compte le plus d'Afro-Américains à Minneapolis, il y a deux bureaux de vote. Et là aussi, on a voté contre cette forme de définancement de la police par une marge plus mince, mais on a voté contre quand même. San Francisco et Chicago, il n'y a pas eu de référendum, mais il y a des maires démocrates, progressistes, qui ont décidé de couper le budget de la police. C'était une sorte de concession à ce mouvement-là. Mais il y a eu un effet assez rapide et instantané. Le crime a monté en flèche. C'était déjà des villes où il y avait des problèmes de criminalité. À Montréal aussi, il y a des militants qui veulent définancer la police. Ils ont le droit. C'est une opinion qui a sa place et on en débat. C'est parfait. Projet Montréal, le parti au pouvoir, est officiellement contre le définancement de la police. La mairesse, Mme Plante, se dit contre. Valérie Plante me le dit sur tous les tons à ce micro-là. Elle est contre le définancement de la police. Il reste que quand même la perception demeure. Les policiers à Montréal regardent Projet Montréal et la mairesse avec suspicion. OK? Moi, je vais vous dire une chose. Je crois, même si la mairesse, je la crois, OK? Mais je comprends quand même les policiers d'être sceptiques face à Mme Plante, parce que candidate à un second mandat comme mairesse, elle a recruté dans Montréal-Nord un candidat à la mairie qui a perdu, qui s'appelle Will Prosper. M. Prosper est un ancien policier de la GRC et qui est très impliqué maintenant à Montréal-Nord. Il fait des bonnes choses. Hein? Les gens qui le côtoient là-bas trouvent que c'est un gars qui est bien impliqué, qui est une force positive dans ce quartier-là. Il est aussi pour le définancement de la police. C'est une des voix les plus connues qui porte ce projet-là de définancer la police. Il l'a dit souvent. Et Projet Montréal l'a recruté. T'as beau dire après que Projet Montréal est contre le définancement de la police, t'as quand même recruté comme candidat dans ton équipe un des porte-parole les plus en vue de ce mouvement-là de définancement de la police. Donc, même si M. Prosper a perdu dans Montréal-Nord, reste que ça laisse des traces dans la perception. Ça laisse la perception que Projet Montréal n'est pas si décidé que ça à soutenir la police, à combattre le crime, que c'est pas vu comme une sorte de priorité. Moi, je pense que c'est une grande partie de perception là-dedans. Je crois pas que la mairesse veut secrètement définancer la police. T'engages pas Martin Prudhomme, qui est un ex-DG de la Sûreté du Québec, ex-chef de la police de Montréal, comme directeur général adjoint à Ville de Montréal, responsable de la sécurité publique, si tu veux définancer la police. Ce qui nous ramène à la réalité, ça se tire dessus à Montréal présentement. C'est inquiétant. C'est un problème assez nouveau dans les villes canadiennes comme Montréal. On a eu des épisodes avec la guerre des motards, mais on peut dire que c'était des spécialistes, des grands spécialistes du crime dans les années 90. C'était pas de la petite criminalité qui se procurait facilement un gun comme aujourd'hui. Donc, c'est pas les États-Unis. Ça a des échos de ce qui se passe aux États-Unis. Les guns importés des Américains tombent dans les mains de jeunes têtes brûlées ici, au Québec, au Canada, à Montréal, et sont utilisés sans gêne dans les rues. On l'a vu à plusieurs reprises, on le voit quasiment à chaque jour. Est-ce que les crimes qui ont été commis à Montréal, les deux meurtres hier, c'est de ce type-là? Il semble que ce soit là vraiment du crime très organisé qui est, comment dire, tout ça. La réalité demeure, ça crée un sentiment d'insécurité. Ça se tire dessus, il y a plus de crimes. C'est pas le temps d'avoir moins de police. C'est pas le temps de commencer à se dire « ils ont trop de budget ». Écoutez, c'est le temps d'accroître les patrouilles, c'est le temps de former plus d'enquêteurs, de débloquer des budgets pour du renseignement, pour de l'infiltration, pour de la filature, pour des salles d'écoute électronique, etc., etc. C'est ça qui fait qu'on garde les criminels sur les talons. Ma crainte, personnellement, comme Montréalais, c'est que l'insécurité engendre l'insécurité. Je vais faire une image. Prenez l'escouade des crimes majeurs à Montréal. Disons que dans une année normale, il y a, 50 événements qui nécessitent des enquêtes de cette escouade d'élite que sont les crimes majeurs. Si tu as de plus en plus de crimes importants, des fusillades, des meurtres, des agressions, tu n'as pas forcément plus d'enquêteurs aux crimes majeurs pour enquêter. Qu'est-ce qui va arriver si du jour au lendemain, tu passes de 50 à 75 événements dans une année qui nécessitent des enquêtes aux crimes majeurs? Fais plus d'enquêtes, il n'y a pas plus d'enquêteurs demain matin qui sont prêts à être dans cette escouade-là. C'est un peu comme dans les hôpitaux. Tu peux pas inventer des infirmières qui sont prêtes à travailler en soins intensifs. C'est un peu la même chose dans la police. Tu peux pas demain matin inventer des enquêteurs aux crimes majeurs. S'il y a plus de crimes, qu'on a moins de ressources pour faire les enquêtes, il y aura un sentiment d'impunité qui va être encore plus grand dans les milieux criminels que ce qu'on peut constater aujourd'hui. Bref, définancer la police, je reviens à ça, un peu financer les criminels par la bande. En tout cas, c'est faciliter la vie des bandits. C'est une belle idée quand t'as 18-19 ans, quand t'es un militant au cégep, dans la vraie vie. C'est une idée qui est complètement stupide. Si ça marchait, ça se saurait. Si ça marchait, les gens de Minneapolis, la ville où George Floyd était assassiné par des policiers, ben ils auraient voté pour le définancement de la police. Et ils ont dit non. On accueille en studio notre spécialiste de la monarchie, mais ce soir, on va pas faire une chronique monarchique comme telle. On veut connaître l'homme derrière.
Ah ouais?
Oui, l'homme derrière, le passionné de monarchie. Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques.
Moi, j'avais toutes mes notes.
Mais oui, 12 pages de notes.
Connaissant Philippe Audrey, il aime tellement ça au dé de son cœur sur sa vie privée. Il est dans le 7 jours à tout bout de champ.
Ah oui. Non, mais j'ai appris que j'attendais un enfant bientôt dans le 7 jours. J'étais pas au courant.
Hein?
Ouais.
Tu viens-tu?
Non, ils ont dit que je voulais un enfant puis tout ça.
OK, mais attends. Vouloir plus un enfant, moins, vouloir un enfant, c'est ce que tu as dit, ouais. Mais dans 7 jours.
Non, je vais être rigoureux. Ils ont dit que j'espérais la venue prochaine d'un enfant. Mais c'était c'était plus comme la pandémie, c'était le fun, mais tu sais, vivre dans un 4,5 à 2, c'est petit. Puis peut-être plus pour plus. Puis ça a été détourné par je vais avoir une maison de campagne avec des enfants. Ce que j'ai appris, puis j'étais très heureux, mais j'étais pas au courant.
Mais ce qui est étonnant, c'est que tu te ramasses dans 7 jours.
Ouais, je sais pas pourquoi.
C'est parce qu'il va. Je sais pourquoi, moi.
Ah ouais?
Parce qu'il va aux premières.
Non, jamais en plus. J'arrêtais.
Tes amis humoristes, c'est toujours rendu là.
Oui, mais moi, j'ai arrêté d'y aller justement parce que j'ai arrêté de me faire prendre au piège.
Parce que je veux dire, regarde, je regarde, tu sais, la galaxie des vedettes qui se retrouvent dans le 7 jours. Je vois.
Tu me vois rarement.
Non.
Et c'est voulu.
C'est un peu confidentiel, ta notoriété.
Mais tant mieux.
Non, mais oui, je sais que t'aimes ça comme ça. Mais comment t'es venu sur leur radar? C'est l'été, puis il manquait d'espace?
Sûrement, oui. Non, mais ça, c'est une nouvelle du printemps. Fait que j'essaie de passer l'été à rendre ça vrai, mais ça a pas... c'est pas encore vrai.
Ta blonde n'est pas...
Non, pas que je sache, en tout cas.
Mais c'était plus compliqué quand tu sortais avec une autre personnalité connue, parce que là, j'avais l'impression qu'on avait plus de plaisir à parler de sa vie privée.
J'ai manqué ce bout-là, c'était qui?
Mais il sortait avec une comédienne.
Oui,
mais
non, toi?
Mais non, mais là, c'est super intéressant tout ça.
C'est qui?
Si on parlait de la royauté, ben là, c'est pas grave. Mais
Je vais googler.
Non. Moi, je comprends Philippe
Audrey. Ben oui, je le comprends aussi.
Moi, c'est
très dangereux.
tu veux que je me ferme comme une huître? Parle-moi de mes blondes et de mes ex.
Ben oui, non, mais c'est exactement ça. C'est parce que, mais cette fois-là, Catherine, dont tu parles, c'est pas que j'ai appris ma rupture dans le 7 jours, mais j'ai quand même été témoin de ma rupture dans le 7 jours. Puis honnêtement, une rupture, c'est ça, ce que j'appelle un mercredi comme un autre. C'est quand même pas le fun d'avoir un récit journalistique de ça s'est passé comme ça, puis tout ça, puis fait que j'ai comme décidé d'arrêter pour pas avoir mal d'en parler. Fait que l'AMC t'a trouvé.
Ben là, je suis sur Hollywood Peak.
Ce qui est quand même une très bonne source pour ces affaires-là.
Moi, j'en ai deux. J'ai Patrick Lagacé et Hollywood PQ.
Ah ouais?
C'est mes deux sources.
Mais c'est ça. Tout...
Qu'est-ce que tu veux dire?
Mais toi, t'es Monsieur Potin.
C'est les deux seules choses que je lis.
OK, je pensais...
Je le trouvais Monsieur Potin,
Ben non.
Mais en tout cas, mais tout ça pour... Je sais pas où on allait avec ça,
Mais on parle de toi, là, un peu.
OK.
Mais t'es quand même... T'es un gars quand même assez discret. J'ai pas l'impression que cette notoriété-là, pas l'impression que t'es à l'aise avec ça.
Pas du tout, non. Vraiment pas.
Quand les gens te reconnaissent, t'es-tu gêné?
Tout le temps. Mais je suis reconnaissant, mais très, très gêné. C'est vraiment un trait que... Mon but dans la vie, c'est de pas déranger. Hein, partout. Fait que quand on vient me parler, je suis super gentil, mais j'espère l'être, mais je vois ça comme un honneur, ou en tout cas un privilège. Mais reste que je suis conscient de la normalité de la situation quand même.
Mais même, je dois ajouter, là, Philippe Audrey, on a participé à une émission de télé ensemble.
Oui.
Dernièrement. Puis là, je dis, on va aller au party prendre un verre. Puis là, il me regardait avec des yeux de chevreuil. Des phares d'en face. J'aime pas ça, les parties. Je sais pas quoi faire.
Ben, c'est vrai.
Fait que j'ai passé le party à le regarder, à voir avec, il était où, avec qui il parlait, s'il était correct.
J'avais ma coach.
J'avais bon 5 minutes, c'est correct.
J'ai fait un party à la maison. T'es venu.
Oui.
Puis t'étais correct.
Ouais, tu t'es mêlé aux gens.
Ouais, mais faut dire que MC animait la conversation, puis j'étais en retrait. Fait quand
ouais, je cherchais le trouble.
Ouais, Seigneur. Mais quand même pas mal en plus.
De tous les bords.
Ouais.
Je connais
pas. Je pense que t'as mis tout le monde en colère pour
vrai.
Exactement.
Mais bon. Tu viens de résumer mon métier.
Ah oui. Ben c'est ça. Mais non, moi c'est. Non, mais tu sais, j'étais passé par la SQDC aussi, Patrick. Fait que ça aide à socialiser là, un peu. Là.
Ok, t'étais un petit peu rond là quand t'es arrivé.
J'étais pas rond, mais j'étais vaporeux. Tu sais, disons pas fruité généreux, batté ténébreux. On va dire ça de même.
C'est plus engageant que je pensais ton texte dans 7 jours que je viens de trouver.
Ah oui!
Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, souhaite fonder une famille.
J'étais pas au courant.
Avec sa conjointe, dans un futur rapproché.
OK. Ah, tu vois.
C'est une citation avec ça?
Ben, tant qu'à. Ouais.
Je joue le rôle de. Oh, mon ordinateur. Je vais essayer de me bugger. Il faut que je vais relâcher. Un peu.
Ah, ben oui.
Je pense que
ça paye pas beaucoup, 98,5.
T'as-tu des amis hackers?
Non, mais je pense que j'ai des amis qui sont capables de faire un GoFundMe, par exemple.
C'est un signe qu'on peut changer de sujet.
Oui, je pense que oui.
Un peu sérieux. T'as fait le Conservatoire d'art dramatique de Montréal.
Ben voyons, c'est-tu ma bio pour vrai?
Oui. OK. T'es diplômé. Après ça, l'humour.
Ouais.
Dans ta tête, là, quand tu te dis, quand je vais être grand, je vais devenir... C'est, complète la phrase.
Ah, je vais devenir surtout pas humoriste, en fait. Fait que là, il y a des détracteurs qui ont fait « t'aurais dû suivre ton chemin intérieur ». Mais non, c'est vrai que je voulais être comédien ou en tout cas dans le monde du théâtre. Fait que c'est vraiment un échec auquel on assiste en ce moment.
OK, fait que l'humour, c'est un plan B.
Oh, même C, Z, je sais pas, mais c'était pas ça qui était prévu du tout, du tout. Puis non, j'ai même pensé devenir journaliste de Formule 1 avant de devenir humoriste. T'sais, c'est dire que c'était pas dans mes plans. Mais c'est une grande passion pour moi aujourd'hui, l'humour. Je sais à le dire, là. J'ai pas l'impression que ça... Non, mais c'est vrai. Puis j'ai tout fait pour faire du théâtre, ça a pas marché. Fait que là, je fais de l'humour.
J'ai lu Haute démolition de Jean-Philippe Marie Guérard.
C'est vrai.
C'est un roman qui est inspiré de faits vécus, on va dire ça comme ça, dans le monde de l'humour. C'est un excellent roman. J'ai trouvé que c'était un milieu, disons, un petit peu... pas recommandable.
Ouais, ben non, mais
okay. C'est du roman.
Non, oui, c'est du roman, mais c'est parce que, ok, je sais pas si mes confrères et mes collègues vont être d'accord ou, mais c'est parce que l'humour, il y a beaucoup. Puis tu sais, je parle de moi en ce moment, mais quand tu lis des biographies, même des plus grands humoristes, généralement l'humour, ça arrive comme une sorte de moyenne défense, une méthode d'intégration, parce que t'as vécu des carences ou des traumatismes. En tout cas, pour beaucoup d'humoristes, c'est ça. Fait que là, t'as des gens qui ont, comme moi, qui ont des carences quelconques, qui osent pas ou qui ont trouvé une façon qui est l'humour de les combler. Ils commencent à être populaires. Donc, faire rire, ça provoque un sentiment de pouvoir. C'est assez intéressant puis intense comme sentiment. C'est pour ça qu'on dit, dès que j'ai fait rire, j'ai voulu recommencer. Parce que faire rire des inconnus, c'est spécifique. Faire rire des gens qu'on aime, c'est valorisant. Faire rire des inconnus, c'est particulier comme sensation. C'est pratiquement comme, c'est un rush d'adrénaline. Fait que t'as un sentiment de puissance. Puis quand tu commences en humour à quelques exceptions près, tu commences dans le milieu des bars, qui est un milieu qui est très permissif quand il s'agit d'avoir des vices, disons. Fait que tu passes tes premières années, ton ascension, donc ta notoriété, ta prise de pouvoir, on pourrait dire, dans un milieu qui est peut-être, c'est ça, qui est permissif, puis ça fait en sorte que tu peux vite déraper, puis ça, tu vois, c'est un truc dont je me méfie, puis je trouve que le roman de Jean-Philippe, il traite bien de ça, comment à un moment donné, même si... c'est pas exactement ça le cas dans le roman, là, mais ça, j'ai été témoin des fois. Même si tu viens d'un milieu correct, tu peux déraper parce que tu viens la pression de la réussite, vient la pression de l'observation, vient la pression de la notoriété. Puis là, tu trouves des moyens qui sont l'alcool, la drogue des fois. Tu
m'apparais, puis là, regarde, je suis complètement superficiel, là, mais tu m'apparais pas être le genre à être prompt au dérapage.
Non, mais tu vois, je me méfie beaucoup de ça, justement, puis j'ai rapidement essayé de me sortir des bars, parce que, puis c'est rien contre ceux qui travaillent là-dedans, au contraire, là, j'ai beaucoup d'amis, mais c'est vraiment un milieu qui me correspondait pas, en tout cas, puis ce parcours-là aussi, je le trouvais difficile, puis c'est aussi parce que justement, je voulais un peu être sûr d'être correct dans la vie, je voulais pas déraper, ça me faisait peur, puis je veux pas non plus... ça me fait vraiment de la peine. Tu sais, les clichés sur les humoristes, ça me fait de la peine, mais quand ils s'avèrent vrais, ça me fâche, puis ça me fait vraiment plus de peine encore.
Mais les clichés existent.
Oui.
Pour une raison, des fois.
Exactement. Puis ça me tente pas de participer à ça. Ouais. Fait que je me suis sorti de ça. Mais c'est un milieu qui s'assainit énormément. Ça, je tiens à le dire.
T'as vu une différence mettons, les 5-6 dernières années?
Radical. Comme il y a vraiment une conscientisation, il y a une attention, j'oserais même dire une délicatesse qui est portée envers les gens, il y a une ouverture, puis il y a plus d'affaires de la prochaine c'est une fille, elle a des grosses, on voit le genre de présentation chic et élégante. Qui était concrètement, quand j'ai commencé, ça existait encore, ces affaires-là. C'est-à-dire, il y a à peu près 8 ans. Là, ça existe plus du tout. Il y a vraiment une volonté d'intégration de tout le monde, de partout, de tous les milieux. L'humour a complètement ouvert les bras aux drag queens. Tu vas au bordel, tu peux rencontrer, tu peux avoir une prestation de drag. C'est pas fréquent, là, je dirais pas, c'est une fois sur deux, mais ça arrive. Puis, il y a vraiment eu un assainissement, il y a eu on va le dire poliment, un nettoyage, et ça a nettoyé j'oserais dire, les bonnes personnes, peut-être. Je me permets un éditorial subtil ici.
ou pas subtil.
Ou pas subtil, mais ça a nettoyé les bonnes affaires.
OK. Retiens ton idée, on te garde jusqu'à la fin, mais on s'en va à la pause. Oui, le God Save the Queen, c'est bien ça, pour parler avec Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. quand tu es à notre antenne, tu nous parles depuis un an environ de monarchie.
Ouais.
Toi et moi, on fait souvent des blagues là-dessus, mais là, on va, comme j'ai dit tantôt au début de l'entrevue, on parle de l'homme, pas du chroniqueur.
Mais attends, juste avant, c'est vrai que tu t'en vas à Londres?
Oui! La semaine prochaine.
C'est la semaine de l'anniversaire de Lady Di.
Non, je sais, là. Non, je suis prêt, là. J'ai mon foulard, j'ai tout la patente. Ben, semi, mais oui.
Ça va là pourquoi?
Ben, il y a un spectacle à Wembley. ça fait très bourgeois dire ça, là. J'aurais voulu dire. Finalement, je vais voir Lady Di. Non, mais ça concorde bien, puis j'ai très hâte de vivre les événements de près, puis de rapporter, de faire des chroniques rigoureuses en venant.
C'est qui tu vas voir?
Chris Rock, en fait. Mais il n'y avait pas de spectacle.
Attends, tu vas voir Chris Rock à Wembley. Au stade Wembley?
Ouais. Mais non, mais je voulais pas parler de ça, là, mais...
Chris Rock remplit le stade Wembley à Londres.
Je sais pas, mais moi, je vais être là, en tout cas.
Fait mais je pense qu'on va te parler de là-bas.
Oui, 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 ben, OK.
Ça te permettra de financer une partie de ton voyage.
Ah, oui, j'ai trouvé ta citation cher. Dans 7 jours.
Bon, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai dit?
M'occuper d'un cactus me stresse.
C'est vrai?
Donc, avant d'avoir un enfant, il faut que je me prépare un peu.
Ben non, mais moi, je trouve que c'est des paroles de sagesse. Moi, je trouve que...
Mais t'as pas dit malicité, là.
Non, mais il y a quelques gars que je connais autour de moi qui pourraient penser à ça, là. Commence à voir avec un cactus, puis après, voir avec un enfant.
Donc, si je comprends bien, s'occuper d'un cactus, c'est la ligue junior comparée à être un parent, c'est ça?
Je vous prépare. Peut-être même, c'est quoi, moustique, puis oui, la ligue avec les chaises, là. Okay. C'est ça. Puis je suis pas bon là-dedans. Fait qu'imagine dans la Ligue nationale.
Quelqu'un m'a écrit pour me dire, demande à Philippe Audrey de te parler de son passage à Salut Bonjour au week-end.
Ouais.
Pourquoi?
Ben, parce que j'ai pas de souvenirs, premièrement. Parce que ce qui est arrivé, c'est que... mes parents vont
t'en as déjà parlé dans un podcast.
Oui, je sais, mais là, c'est pas la même chose qu'une radio, la numéro 1 au Canada, hein, apparemment.
Vous me dites, nous, c'est du vent, puis ça disparaît. Un podcast, c'est pour toujours. Fait que
t'es
peut-être pas stressé au bon endroit.
Je sais pas, j'ai l'impression.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, ce qui s'est passé, c'est que je faisais la promotion d'un film dans lequel je tenais la tête d'affiche, on va dire, qui est Johnny Earn, fait que c'est pas difficile à trouver.
Les Barbares.
Ouais. Puis ça me stressait énormément, fait que parce que c'est Salut Bonjour quand même. Puis on m'a recommandé de prendre de l'huile de CBD la veille pour bien dormir, faire une bonne entrevue, arriver vraiment
à la SQDC.
Juste comme à l'aise et spontané. Fait que on me donne, ben je prends de l'huile, mais moi je connais pas vraiment ça à l'époque. Je tiens à dire à l'époque. Puis là, je commence à prendre, mais là, je bois, puis là, j'en bois beaucoup parce que je suis très stressé, puis là, je réalise c'est du THC, mais là, je te dis, là, je pars sur une dérape, puis je me dis, c'est correct, je vais me réveiller demain matin, ça va être parfait. Je me réveille le lendemain matin, oh, c'est pas parfait. Là, je fais tous les trucs que je connais pas vraiment, mais tu sais, genre prendre une douche froide, me gifler, boire de l'eau, tout, n'importe quoi. Il y a rien qui marche. J'essaie de conduire, je peux même pas sortir de ma place de stationnement, fait que je me rends taxi. Une fois là-bas, je me rentre la tête dans neige, ce qui est vraiment l'affaire du gars le plus gelé au monde.
À tous les sens.
Ouais. Puis moi, je suis là dans ma tête pour un petit segment de 15 minutes. Tu sais, juste une affaire, ce qu'on appelle un bloc en télé. C'est 15 minutes. Fait que je me dis, c'est correct. Tu sais, 15 minutes, je suis capable d'être concentré, puis ça va être correct. J'arrive là, je suis vert, là. Mais là, la maquilleuse, elle est comme, oh, t'as besoin de soleil, toi. Mais j'étais habillé en vert, mais j'étais vert. Puis là, je réalise que ça va pas bien se passer. Le moment où je suis pas capable de lire concrètement la page du Journal de Montréal, la première page. Tu sais, honnêtement, c'est quand même facile à lire, hein? La première
page. Les caractères sont gros, là.
Oui, mais là, c'est très mélangeant. Écrit Victoire CH, je comprenais rien. On entre en onde, et là...
Mais il y a personne qui t'intercepte, là, qui dit...
Non, j'ai l'air d'un gars fatigué qui a pas eu son café. Puis là, ça commence, puis je me souviens très, très bien de regarder le sol, puis de faire, oh, faudrait que je regarde pour avoir l'air d'un gars comme présent. Fait que je m'auto-cligne les yeux en faisant, faut que je cligne des yeux à peu près à chaque seconde pour avoir l'air normal. Puis là, Ève-Marie Lortie, qui a été impeccable avec moi, elle dit, Philippe Audrey, on va faire un quiz éclair avec toi. Et si des gens sont à l'aise avec la SQDC, ils savent très bien que quiz, ça sera pas possible. Et éclair, encore moins. Puis là, le plus gênant, c'est que c'était un quiz sur moi, mais je connaissais pas les réponses.
Sur toi-même.
Oui. Elle était comme, quel est ton sport préféré? Là, je sais pas. La F1. Puis là, je fais un film de hockey. T'sais, ça aurait été bon de dire hockey. Puis là, je réalise qu'ils ont fait un petit montage à côté avec des animations en fonction des réponses que j'avais précédemment répondues.
Oh non.
Oui, fait que ça a plus rien à voir.
Il y a rien qui marchait.
Non, puis là je m'autocopiais, je prenais les cartons d'Ève-Marie pour dire ah oui, j'ai répondu que finalement j'aimais la sauce à spaghetti. Une catastrophe, une heure. Heureusement, Salut Bonjour, ça finit avec une dégustation cuisine. Quiconque a été à la SQDC, c'est que c'est un beau mariage, cuisine et ça. Fait que ça y a été dans la salade de bocconcini. Puis après ça, l'équipe se fait des pogos. Et j'ai peut-être dévalisé les pogos aussi. Fait qu'ils m'ont jamais réinvité, étonnamment.
Mais est-ce qu'ils savent que t'avais eu cet accident
Je ne crois pas. Ben là, ils sont en train de l'apprendre, là. Mais non, ben je l'ai dit une fois dans un podcast, mais non, je l'ai jamais dit sur place, puis... ça a été sûrement un des pires moments de ma vie. Là, tu me vois, là, j'ai les yeux vitreux, je suis vert, je suis dégueu.
C'est peut-être bon pour ta carrière, dans le sens où...
Ah ouais?
Ben oui. Les gens se sont dit, tu sais, lui, il est décalé, il est différent, il blague en répondant n'importe quoi.
Ben écoute, l'assistance au film a peut-être pas été...
C'est à cause de ça.
Ben sûrement, sûrement. Mais aussi un film qui se passe à Thunder Bay, dont la finale, c'est Thunder Bay. C'est peut-être pas invitant non plus. Tu sais, tu vas au cinéma pour te divertir, pas pour te déprimer des fois.
Pourquoi Thunder Bay?
Je sais pas, c'est le scénario. Mais je pense que c'est dans l'humour. C'est comme, tout était anti dans ce film-là. Fait que...
Est-ce que t'assumes d'avoir fait ce film-là?
Ah, à 100%. Non, mais oui. Oui. Non, j'ai l'air de non, mais oui, j'assume. Je suis fier de ce film-là.
Es-tu fier aussi?
Non. Ça, tu vois, c'est l'affaire que je trouve qui est une faille dans le film. qui est mon jeu. Je trouve que ça aurait été mieux avec un autre acteur. C'est quand même vrai.
Fait que le conservatoire, c'est un gage de pas grand-chose.
Ben non, mais les gens me disent ça. T'es un bon acteur. T'as fait le conservatoire. Puis je suis comme, ben oui, mais as-tu vu les autoroutes? Il y a des ingénieurs qui ont été à l'école d'ingénierie. Là, comme, ça veut rien dire. T'sais, tu peux être pas bon puis quand même avoir un diplôme. Puis ouais, non, ça a été une belle aventure, tout ça.
En terminant, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand?
Un deuxième spectacle.
Ouais, premièrement, qui s'en vient d'ailleurs en mars. Mais je dirais animer le 15-18 au 98.5, là. Okay. Ça, c'est une ambition.
Mais ça s'appelle pas le 15-18.
Non,
le
moi, 15-18, ça va s'appeler.
C'est un titre d'émission.
Oui, je sais.
Mais pas ici.
À un autre poste.
Non, mais je vais imposer ma volonté et ma vision.
Philippe Audrey, mes sources me disent que tu n'envoies pas tes factures pour les chroniques que tu fais.
Bon.
Tu devrais les envoyer parce que ça vaut chaque dollar.
Oui.
Il y a quelqu'un qui vient nous texter « J'ai adoré les barbares ». Tu donnes son numéro?
Ben oui, c'est merci. Merci à toi, Agnès.
Merci, Philippe.
Patrick Lagacé, en accéléré.
Il y a une étude américaine là publiée dans un journal scientifique qui se consacre à la sécurité, notamment à la sécurité routière, qui confirme la prédominance des camions, des VUS dans les collisions mortelles qui impliquent des piétons et aussi des enfants. On va essayer de décortiquer tout ça avec professeure Catherine Morency. Elle est titulaire de la chaire mobilité de la chaire de recherche du Canada sur la mobilité des personnes à Polytechnique. Professeure Morency, bonjour.
Bonjour.
Vous avez lu cette étude-là. Est-ce que les conclusions sont une surprise pour vous?
Pas du tout. En fait, je l'ai lu en diagonale quand on va l'envoyer aujourd'hui, là, mais c'est pas du tout une surprise parce qu'en fait, il y a beaucoup de travaux qui cherchent à comprendre l'ensemble des impacts qui sont associés à la transformation du parc de véhicules et la prédominance, en tout cas l'importance de plus en plus grande de ces véhicules plus hauts, plus larges, plus longs et plus lourds sur nos routes.
Donc, en fait, ce que j'en comprends, là, c'est que ce que les chercheurs ont remarqué, c'est que depuis 2009, les voitures dans le parc automobile aux États-Unis ont grossi. On le voit sur nos routes aussi, là, beaucoup plus de VUS, beaucoup moins de véhicules petits. Et ça a un effet, semble-t-il, direct sur la mortalité des piétons et la mortalité des cyclistes.
Oui, en fait, leur modèle, je regardais les résultats de leur modèle, vient vraiment démontrer que l'effet, qu'il y a un impact significatif sur les décès qu'il y a ces gros véhicules. Donc, le fait que ce soit ils appellent ça un troc, un véhicule utilitaire sport ou une van, une camionnette, ça va être positivement associé à une plus grande occurrence de ces accidents de type fatou. Donc, c'est les mortalités. Donc, ça, c'est important. C'est une conclusion qui est importante là, parce qu'il y a souvent des questionnements. Là. On dit souvent que les VUS ou les gros véhicules sont plus sécuritaires pour ceux qui les conduisent, ce qui peut être vrai, mais ils mettent beaucoup plus en péril les autres usagers de la route.
Ça peut être vrai, mais si tous les véhicules sont plus gros, est-ce que ça demeure vrai qu'on est plus en sécurité dans un VUS?
Bon, je sais pas s'il faut parler du voisin gonflable. S'il faut toujours être plus gros que celui qui est à côté de nous pour être en sécurité, je pense qu'il y a un questionnement à avoir. Mais il y a beaucoup d'autres effets. Évidemment, cet effet sécurité, il est important parce que c'est toujours les populations vulnérables qui vont souffrir dans ces situations-là. Donc, on a un gros enjeu d'équité. Ceux qui sont à bord ne sont pas les mêmes que ceux qui sont sur la chaussée. Ça va être des populations vulnérables, les cyclistes, les piétons, les personnes âgées, les enfants. Donc, je pense qu'il y a un gros questionnement à avoir sur ça. Mais l'étude est claire à cet égard. Je pense que les conclusions sont relativement nettes. honnêtes quand on regarde la significativité de ce qu'ils ont testé. Donc, voilà.
Donc, est-ce que je comprends que si les voitures étaient, disons, de la même taille que ce qu'on pouvait voir il y a 10, 15, 20 ans, il y aurait moins de morts?
Bien sûr. En tout cas, c'est ce que l'étude semble montrer, là, que c'est vraiment associé à une plus forte présence d'accidents avec des fatalités. Donc, oui, mais il faut regarder aussi au niveau systémique, là, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de véhicules aussi. Et puis, il y a une question de comportement de conduite qui est associée à la présence de ces véhicules. Je regardais, bon, avec cet article-là, ça m'a fait regarder un peu ce qu'il y avait sur la littérature sur d'autres sujets. Puis, on disait qu'effectivement, le fait de conduire un gros véhicule pouvait aussi inciter les gens à conduire de façon un peu plus agressive parce qu'on se sent en sécurité, alors que ça devrait plutôt être un comportement inverse. On devrait suivre de plus loin, on devrait faire attention parce qu'on est plus dangereux, on expose plus les autres à des risques, ce qui est confirmé par cette étude-là. Donc, il y a plusieurs quand même paramètres, là, mais il reste que dans leur modèle, c'est assez clair que c'est les trois facteurs qui sont associés au type de véhicule sont hautement significatifs dans le fait que ce soit un accident mortel ou pas.
Est-ce que le parc de véhicules aux États-Unis comporte plus de gros véhicules qu'au Canada?
Bon, ici, je n'ai pas les statistiques pour les États-Unis. Je l'ai pour le Québec parce qu'on a fait une étude spécifiquement sur la présence des SUV et des camionnettes, là, des camions légers, en fait, dans la flotte de véhicules. Et il y a une très, très forte croissance de la présence de ces véhicules légers. Et on a vraiment une forte croissance de l'empreinte. Moi, j'appelle ça l'empreinte spatiale, là, deux dimensions, trois dimensions. Ces empreintes-là augmentent beaucoup plus vite que le nombre de véhicules sur nos routes. Des véhicules de passagers, là, évidemment. Donc, on a beaucoup de véhicules légers qui sont maintenant utilisés pour des fins de transport de personnes, donc pour des véhicules de promenade, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Mais depuis 20 ans, ça a été une très forte croissance, tant dans ce qui est offert au niveau des types de véhicules que ce qui est acheté et que ce qui est présent sur nos routes. Donc, ça, c'est quand même un enjeu important.
Est-ce qu'on peut tirer les mêmes conclusions en se basant sur les statistiques québécoises, canadiennes de mortalité de piétons? Puis de cycliste?
Je serais embêtée de vous répondre parce que j'ai pas un modèle qui va dire exactement la même chose. Je serais quand même étonnée qu'on n'observe pas la même chose.
Okay,
je dois t'avouer là, que j'aurais tendance à penser qu'on va observer la même chose si on accède aux mêmes ensembles de données et qu'on fait le même type de modèle.
Est-ce qu'on a les données? Parce que je sais qu'aux États-Unis, à plusieurs égards, là, c'est un pays qui a d'excellentes statistiques sur toutes sortes de choses. J'ai souvent lu qu'au Canada, c'était pas le cas. Est-ce qu'on a des bonnes statistiques qui peuvent faire des corrélations semblables?
Et là, je dirais que vous m'appelez peut-être deux mois en avance, là, parce que je travaille actuellement sur les données d'accident pour les populations vulnérables. Et on a le type de véhicule, on essaie justement de comprendre est-ce qu'il y a des risques plus graves, parce qu'on essaie de démontrer pour le Québec, là, parce qu'on c'est beau avoir des études un peu partout, on essaie vraiment d'illustrer pour le Québec c'est quoi les facteurs d'augmentation, parce que ces modèles-là permettent de donner c'est quoi le pourcentage plus grand de risques qui est associé au fait qu'on ait des mortalités. Fait qu'on a des ensembles de données, c'est jamais parfait, des ensembles de données, mais on devrait pouvoir quand même démontrer, certainement confirmer ce qu'on observe dans ces études-là, sans aucun doute.
Merci beaucoup, professeur Morancy. Bonne journée.
Ça me fait plaisir. Au revoir.
Catherine Morancy, qui est spécialiste en mobilité des personnes à Polytechnique. Extrait de l'étude américaine dont je vous parlais. Un enfant qui est frappé par un véhicule léger, là, appelons ça une voiture, là, comme on en connaît, mais il y en a de moins en moins, a 8 fois moins de chances de mourir que s'il est frappé par un de ces VUS qui soit léger ou pas léger. Donc, ça a vraiment un impact là, dans le type de choc qu'il peut avoir entre les véhicules et les êtres humains.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.